Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa présence ce matin parmi nous. Et nous voulons encore profiter de cette présence par la prédication de sa parole. Le frère a prié, donc je vais tout simplement commencer cette prédication dont le message s'intitule « De la transformation à la relève ». Transformation jusqu'à la relève. Et nous allons lire dans le premier livre de Samuel deux passages. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 40. 1 Samuel, chapitre 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Nous sautons quelques versets jusqu'au verset 50 et nous lisons 50 et 51. 1 Samuel 17, 50 et 51. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Qui n'a jamais entendu de prédication sur David et Goliath ? Aucune main ne se lève. Donc, vous avez tous entendu, et peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de prédications à propos de David et Goliath. Mais ce matin, nous parlerons peu de David, peu de Goliath, et nous parlerons beaucoup de la pierre. On ne parle pas souvent de la pierre. Ce matin, nous allons parler de la pierre, parce que nous allons parler de transformation, je le disais, de transformation spirituelle. Nous allons parler de la main qui te transforme dans un processus. Parce que la pierre n'est pas arrivée comme ça sur le front de Goliath. Elle a suivi un processus. La pierre a été trouvée où ? Dans le torrent. Et entre le torrent et le front de Goliath, il s'est passé des choses. Parce que la maturité réclame un processus. La maturité n'arrive pas comme ça. Il n'y a qu'à observer la nature. Pour avoir un fruit mûr, il faut une graine, qu'elle pousse, qu'elle devienne un arbre, que des branches poussent, des feuilles, des fleurs. Et la fleur laisse la place à un fruit qui est vert. Et puis, quelques saisons passant, le fruit devient mûr. Amen. Donc ça ne se passe pas comme ça. Et ici, on voit que la pierre qui a tué Goliath a d'abord été trouvée dans le torrent. Elle a suivi un processus, elle a suivi son processus. Ça reste une pierre, mais spirituellement parlant, ça me parle. Et j'espère que ça vous parlera aussi ce matin. Parce que ce matin, je veux parler non seulement en termes de transformation, mais aussi en termes de relève. Pourquoi ? Parce que ça va ensemble. Donc retenez ces deux choses, processus et relève. Parce que quand on devient mûr spirituellement, on devient comme un père ou une mère spirituelle. Et quand on continue de mûrir spirituellement, on devient comme un grand-père ou une grand-mère spirituelle, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous allons lire donc dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Nous voyons ici 4 générations de chrétiens. C'est Paul qui parle à Timothée, il lui parle d'engendrer des hommes fidèles et que ces hommes fidèles soient rendus capables d'enseigner à d'autres hommes fidèles. Paul, Timothée, les hommes fidèles et d'autres hommes. 4 générations de chrétiens ici. Et lorsqu'on mûrit, nous aussi, on engendre des Timothées. Et les Timothées engendrent des hommes fidèles. Et les hommes fidèles engendreront d'autres hommes fidèles. Alléluia. Voilà pourquoi je veux parler en termes de processus. Et c'est pourquoi, tout de suite, je place ces versets-là au début du message, afin que vous reteniez ce que nous allons dire. Et ce matin, je disais, donc, le thème, c'est plus la pierre que David. Quand on prêche sur David et Goliath, on prêche du courage de David, la destinée de David, le combat de David, le Goliath de ta vie. On prêche beaucoup sur ces choses-là, mais ce matin, on va parler de la pierre et de son parcours. Et tout cela dans une dimension spirituelle. Amen. Et nous ne parlons pas souvent de la pierre. Pourtant, c'est bien la pierre qui a tué Goliath. David lance la pierre, mais c'est la pierre qui tue Goliath. Et Dieu m'a montré, en préparant ce message, que la trajectoire de cette pierre, le processus de cette pierre, reflète très bien ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est la vie d'un homme, ce qu'est le processus dans la maturité, ce qu'est le processus dans la croissance, comment un homme peut atteindre sa destinée jusqu'à son héritage. Et donc, on nous parle de 5 pierres polies. Lorsque David a vu Goliath, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la direction du torrent, il est arrivé au torrent, et là, il a choisi 5 pierres polies. Il a choisi, c'est ce qui est écrit dans le texte. Il a choisi 5 pierres polies. Dans le Torah, aucune pierre n'apparaît polie. Il faut un processus. Il faut déjà un processus pour que la pierre devienne polie. Au départ, la pierre, c'est quoi ? C'est un bout de rocher, c'est un bout de montagne qui s'est détaché, qui est tombé dans le torrent. Et le temps passant, le travail du torrent sur la pierre fait qu'un jour, la pierre est polie. Mais les pierres ne naissent pas polies. Au départ, les pierres sont brutes, elles sont rugueuses, elles ont des difformités, elles ont des pics, elles ont des creux. C'est pour ça que la première étape de la pierre, c'est la transformation par le torrent, c'est le polissage. La pierre qui arrive un jour sur le front de Goliath, c'est une pierre qui au départ était une pierre rugueuse et qui a été polie dans le torrent. Amen. Et nous aussi, nous avons connu une période, une étape de notre vie où nous étions rugueux, où nous étions bruts, où nous avions des défauts, où nous avions des creux, où nous avions des pics. Nous n'avions pas une forme arrondie, nous avions une forme bizarre, une forme de pierre rugueuse. Avant de connaître Dieu, nous étions ces pierres brutes. Nous étions nous-mêmes ces pierres rugueuses, car aucun de nous n'est né enfant de Dieu. Personne ici n'est né en tant qu'enfant de Dieu, mais nous sommes toutes et tous devenus enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu sont devenus enfants de Dieu, car on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu à l'écoute de sa parole. La parole nous a trouvés brutes. Avant notre conversion, nous étions liés, nous étions esclaves. Dans ce monde. Nous étions esclaves du monde, nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de Satan, nous étions esclaves. Et lorsque nous sommes dans cette première étape de notre destinée, à l'état de pierre brute ou à l'étape de pierre rugueuse, nous n'aimons pas cette étape-là, nous nous trouvons mauvais, nous n'aimons pas la façon dont nous vivons, nous n'aimons pas ces choses-là. Et j'aimerais parler à une personne qui ce matin s'approche de Dieu et peut-être se sent à l'état de cette pierre rugueuse, de cette pierre brute. Et je voudrais dire à cette personne, ne sois pas impressionné. Quand tu commences à fréquenter l'église, tu peux être impressionné. Un frère, une sœur peut t'impressionner par sa prière, peut t'impressionner par sa louange, peut t'impressionner par ses dons spirituels, peut t'impressionner par sa façon d'être, peut t'impressionner par sa connaissance biblique. Et je voudrais te dire, ne sois pas impressionné par tout cela. Parce que si tu parles avec n'importe quel frère et n'importe quelle sœur ici, il te dira qu'avant d'être la pierre polie qu'il est aujourd'hui, un jour il était une pierre rugueuse, un jour il était une pierre difforme. Et un jour, il a rencontré le Seigneur, et le Seigneur lui a fait grâce. Amen. Donc nous n'aimons pas rester ces pierres rugueuses. Et nous aimons, en revanche, entendre parler de la parole de Dieu. Nous sommes attirés par cette parole de vérité. Nous aimons entendre parler du Seigneur, nous aimons entendre parler de Dieu, entendre parler de Jésus. Pourquoi ? Parce que cette parole nous polit, cette parole nous fait du bien. Et même ceux qui ne viennent pas régulièrement dans l'Église, quand ils sont au contact de la parole, ils sentent que cette parole leur fait du bien, qu'elle agit en eux. Et quand ils viennent à l'église, et quand nous venons tous à l'église, nous sommes comme dans le torrent, toutes et tous. Nous sommes comme dans le torrent. Et la parole de Dieu nous fait du bien. Cette parole de Dieu nous polit. Parlons du torrent. Le torrent coule en permanence. Il ne s'arrête pas. Il coule, il coule, il coule. C'est le même torrent pour toutes les pierres. Et les pierres qui sont dans le torrent subissent la puissance du torrent. Les pierres n'ont aucun pouvoir. Les pierres ne peuvent pas se déplacer. C'est le torrent qui déplace les pierres. C'est le torrent qui fait que les pierres se choquent les unes contre les autres, se frottent les unes contre les autres. Et là, la pierre qui était rugueuse commence à s'arrondir, commence à être polie par la puissance du torrent. C'est lorsque tu viens à l'église et que tu entends des enseignements puissants, pas n'importe quel enseignement, des enseignements qui polissent les mauvaises formes, car ce n'est pas toute parole qui taille, ce n'est pas toute parole qui façonne, mais la parole de Dieu est une parole de vérité, une parole puissante pour transformer, une parole puissante pour tailler, une parole puissante pour renouveler, une parole prêchée sous l'onction de l'Esprit. Ce n'est pas n'importe quelle parole, et c'est une parole qui s'adresse directement à ton âme. La parole de Dieu est une parole qui s'adresse directement à ton cœur. Amen. Dieu nous polit lorsque nous écoutons sa parole. Il nous travaille. Le torrent coule, et le torrent coule, et à force de l'accepter, mes frères, mes sœurs, à force d'accepter la parole de Dieu, à force de subir cette parole, Dieu nous travaille et Dieu commence à te changer et Dieu commence à te transformer. Voilà pourquoi je dis qu'il est important de subir la parole. Choisir les messages que tu veux écouter, c'est bien, mais subir les messages que Dieu veut te donner, c'est mieux. Subir les messages que Dieu veut te donner, c'est mieux. C'est mieux pour toi parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Vous avez remarqué que parfois, il y a des bien-aimés qui s'approchent de l'église. Au début, ils arrivent, ils sont timides, ils sont dans un coin. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, de leur vie. Ils ne connaissent rien ou pas grand-chose à propos de Dieu, à propos de la Bible. Et puis, petit à petit, voyez ces gens-là qui commencent à parler avec vous, et ils commencent à vous parler de Dieu, et ils commencent à témoigner de sa grâce, et ils commencent à vous donner des versets bibliques. Amen. Ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation de la parole de Dieu. Il a l'éducation que les parents nous donnent, et puis il a l'éducation que nous recevons de la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui éduque. C'est la parole de Dieu qui taille, qui façonne. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand nous venons à l'église, que ce soit le mardi ou le dimanche, nous recevons tous, nous subissons tous la même parole, le même torrent. Nous sommes tous comme des pierres dans le torrent, et nous subissons tous le même torrent, la même parole. Mais, vous l'avez certainement remarqué, la même parole qui est adressée à tous s'adresse à chacun en particulier. Chacun retiendra une chose particulière du message. Chacun recevra une chose particulière du message. Chacun selon son besoin. Pourtant, c'est le même torrent, c'est la même eau qui coule, au même endroit, au même moment, mais en particulier pour chacun. Et c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, en ces temps de la fin, Satan combat les assemblées, Satan combat les églises, Satan combat les chrétiens. Il combat tout cela. Et aujourd'hui, il existe de fausses doctrines qui disent aux chrétiens, restez chez vous, vous êtes bien chez vous, vous avez tout chez vous, vous pouvez avoir des messages chez vous, vous pouvez avoir des louanges chez vous, vous pouvez tout avoir chez vous. Vous pouvez simplement rester à la maison. Voilà ce que disent ces doctrines-là. Et certains chrétiens vont dire, je suis contre les dénominations, je suis contre les organisations, je suis contre les églises, contre ceci, contre cela. Ça existe. Et il y a de plus en plus de chrétiens qui ne vont plus dans les assemblées. Amen. Il y a des chrétiens qui ne vont plus dans les assemblées. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu ne vas plus dans l'assemblée? Tu n'es plus dans le torrent. Et tu n'es plus exposé au torrent. Et tu ne subis plus la parole de Dieu. Si j'ai bien lu, David est allé choisir les pierres où? Dans le torrent. David est allé choisir les pierres dans le torrent. Il n'est pas allé dans le village chercher des pierres dans les maisons. David est allé choisir les pierres au torrent. Rester chez soi, ce n'est pas une solution. C'est une maladie spirituelle. C'est un piège du diable. Ces chrétiens-là se suffisent à eux-mêmes. Ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook, ils choisissent leurs messages. Moi aussi, j'écoute des messages. Et j'en choisis, mais j'en subis aussi. Et je crois que nous devons toutes et tous, à un moment donné, venir dans la maison de Dieu pour être dans sa présence, au milieu de nos frères et sœurs, écouter les messages que Dieu veut nous donner. Amen. Dans le torrent, c'est le courant de l'eau qui travaille. C'est la puissance du torrent qui travaille, mais c'est aussi le frottement des pierres. Les pierres se frottent les unes contre les autres. Il y a les petites pierres, et puis il y a des plus grosses pierres, des plus gros rochers. Et donc, le fait aussi de s'entrechoquer comme ça, ça polie les pierres. Et quand tu viens à l'église, tu es au milieu de tes frères et sœurs. Quand tu es dans l'église, tu es au milieu de tes frères et sœurs. Et tu peux recevoir une parole. Quand tu es chez toi, qui va te donner cette parole? Qui va te donner une parole de sagesse? Qui va te donner une parole de connaissance? Qui va te donner une parole de prophétie? Amen. Et quand tu es dans l'église, tu es avec tes frères et sœurs. Et Dieu peut te parler par un frère, par une sœur. Dieu peut te parler par un sourire. Dieu peut te parler par un regard. Dieu peut te parler par une prière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Voilà pourquoi la pierre doit rester dans le torrent. Restons dans le torrent, mes frères, mes sœurs. Et selon le processus de la pierre, un jour, la main de Dieu va te choisir. Il y a une main qui vient. La main de Dieu viendra sur toi, car David, ici, représente Jésus. Il est allé au torrent et il a choisi 5 pierres polies. C'est lorsqu'au-delà de la parole que tu entends, la puissance de Dieu vient sur toi. Et je prie pour que ce soit ton partage ce matin. Je prie pour que ce soit le partage de quelqu'un ce matin. Et je prie pour que la puissance de Dieu puisse venir sur toi ce matin. Amen. La main de David symbolise la puissance de Dieu. Et il faut toujours un équilibre. Il faut toujours un équilibre entre le caractère et la puissance. Le caractère et la puissance. Le torrent façonne le caractère. La main de David représente la puissance. Il faut un équilibre entre ce caractère et la puissance. Car la maturité, c'est l'équilibre entre la parole et la puissance. Entre la parole et l'esprit, entre le caractère et les charismes. C'est tout cela, il faut les deux. Tu étais d'abord une pierre brute. Puis tu entres dans le torrent, et dans le torrent, tu reçois une parole qui te fait du bien, une parole qui te polie, une parole qui te transforme. Et ensuite, Dieu te choisit. La main de David vient sur toi, il te choisit. Et à ce moment-là, c'est une puissance. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. C'est comme quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La pierre sent la main qui la touche et la pierre se dit, ça y est, il m'a choisi. Il m'a choisi et il m'a choisi pour m'envoyer sur Goliath. C'est ce que se dit la pierre. Et c'est souvent ce que l'on croit quand on est nouveau converti. On a rencontré Dieu, on a reçu la parole de Dieu nous a transformés. Nous avons reçu son Saint-Esprit. Nous sentons le feu de Dieu. Nous prophétisons, nous prions, nous parlons en d'autres langues et nous pensons que nous sommes prêts. Mais ça, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas vrai, car il faut encore passer beaucoup d'autres étapes. On va voir que la pierre passe d'autres étapes. Alléluia. Mon frère, le danger, c'est de croire que tu es à la grande école alors que tu es à la maternelle. Il faut avoir de la lucidité. Il faut avoir du discernement sur ces choses-là, car il y a tout un processus. Et c'est un processus qui est long. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es déjà prêt pour ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu sens l'onction sur toi que tu es capable. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es capable. Ce n'est pas même parce que tu fais des miracles que tu es capable. Amen. Il y a encore d'autres étapes. L'étape suivante, c'est la gibecière. David choisit les cinq pierres, puis il les met dans sa gibecière. Les pierres quittent l'eau et on va les retrouver, les cinq pierres, dans la gibecière. La gibecière, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, la gibecière, c'est une petite pochette en cuir que les bergers mettent autour de leur cou. Et là-dedans, ils rangent leurs outils, ils rangent leurs instruments. Et les cinq pierres sont dans la gibecière. Et là, alors qu'elles sont dans la gibecière, elles vont encore se retrouver les unes avec les autres. Mais moins de pierres, moins d'espace, et les pierres vont continuer à se frotter les unes contre les autres. Ce n'est plus l'eau qui frotte les pierres entre elles, mais elles sont dans la gibecière et les caractères se frottent. Ça, c'est l'étape où tu sers dans l'église. Tu sers dans l'église et tu commences à être en proximité de tes frères et sœurs. Et tu apprends à travailler pour Dieu avec tes frères et tes sœurs. Et là, tu vas faire la connaissance de tes frères et tes sœurs, mais d'une autre façon. Tu vas découvrir tes frères et tes sœurs d'une autre façon, avec un autre œil, avec une autre expérience. C'est une joie, c'est une bénédiction, mais ce sont aussi parfois des moments d'épreuve que Dieu utilise pour nous former. Tu vas rentrer dans un service. Tu vas travailler avec ce frère, cette sœur qui est là depuis plus longtemps que toi et il va t'enseigner. Amen. On apprend de nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs nous montrent, ils nous expliquent, ils nous enseignent. Ils font ces choses-là. Mais à certains moments, parfois aussi, un frère ou une sœur plus expérimenté que toi va te reprendre. Il va te dire, là non, là c'est pas comme ça. Là, faut pas faire comme ça. Et ce sont des moments aussi où nous apprenons l'humilité. Amen. Il faut passer par ces étapes-là et apprendre cette humilité. Parce que les autres savent mieux que toi, parce que les autres ont plus d'expérience que toi, plus de vécu. Et parfois même, tu feras une chose et tu attendras une reconnaissance de la part de tes frères et sœurs. Cette reconnaissance ne viendra pas. Parce que tu fais les choses pour Dieu. Mais toi, tu attends une reconnaissance de tes frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui peut te frustrer. Et parfois, tu as l'impression qu'on te juge trop sévèrement ou qu'on te regarde d'une façon bizarre. Mais c'est toi qui perçois les choses comme cela. Tu sers aussi avec ce frère, avec cette sœur qui a des habitudes ou une façon d'être qui te dérange. Peut-être qu'il te déplaît, je ne sais pas, mais tu dois servir avec ce frère ou avec cette sœur. Et tu dois rester, parce que tu es dans la gibecière. Les cinq pierres sont ensemble dans la gibecière. Amen. Et tu ne quitteras pas cette gibecière. Parce que le seul moyen de sortir de la gibecière, c'est quand la main de David vient dans la gibecière, choisit la pierre et la sort de la gibecière. Toi, tu dois rester. Tu dois rester là, avec tes frères et sœurs. Tu dois apprendre de tes frères et sœurs. Tu dois apprendre à travailler avec tes frères et sœurs, selon leurs défauts, selon leurs capacités, selon leurs manquements, selon leurs faiblesses, selon leurs différences, comme eux doivent aussi apprendre à faire avec toi, selon tes manquements, selon tes faiblesses, selon tes insuffisances, selon tes défauts, selon tes qualités aussi. Nous devons toutes et tous, frères et sœurs, apprendre à être ensemble, à vivre ensemble. Et nous devons toutes, frères et sœurs, apprendre à nous défaire de notre orgueil. C'est la volonté de Dieu. Lorsqu'il nous met ensemble, lorsqu'il nous donne ensemble une coopération, un travail à faire tous ensemble, Dieu veut que nous fassions des efforts les uns pour les autres, que nous acceptions les uns les autres, que nous nous défassions de cet orgueil. Mon frère, ma sœur, sache que Dieu place des hommes et des femmes autour de toi qui sont comme des écoles pour toi. Des hommes et des femmes sont autour de toi, mais ils sont comme des écoles pour toi, parce que tu apprends d'eux, même dans les moments qui ne sont pas super sympas. Certaines personnes, parce qu'à un moment donné, ça ne va pas comme ils voudraient, ils vont quitter le service ou ils vont quitter l'église. Ça arrive. Dès qu'une difficulté apparaît, certaines personnes, elles arrêtent. Elles jettent l'éponge, elles arrêtent tout, elles s'en vont. Mais Dieu te dit, reste. La pierre qui est dans la gibecière, Dieu lui dit, reste. Tu restes dans la gibecière, tu restes avec les autres pierres. Tu restes là. Même si c'est difficile, tu restes. Même si on ne te félicite pas, tu restes. Même si la relation n'est pas idéale, tu restes. Même si on ne te dit pas merci, tu restes. Moi aussi, quand j'étais jeune chrétien, il pouvait m'arriver d'être frustré. Je servais dans l'église, j'étais avec des frères et sœurs, et j'attendais une reconnaissance de leur part. Mais j'étais jeune. Je n'étais pas expérimenté, je n'étais pas assez mature. Et oui, je savais que je servais Dieu, mais j'attendais, c'est vrai, je vous dis, c'est la vérité, j'attendais aussi une reconnaissance de mon pasteur, j'attendais aussi une reconnaissance des frères et sœurs, et elle ne venait pas, et ça me frustrait. Mais Dieu a fait grâce. Je me suis tu, je suis resté, j'ai continué, et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a affermi, Dieu m'a béni là-dessus. Et c'est pourquoi certains font la tournée des services, ils font la tournée des églises, vous les trouvez dans tel service, après dans tel autre, après ils vont dans telle église, ils changent, ça ne va pas, je vais dans telle autre église. Ça existe. Ce sont des choses qui existent. Ils commencent une chose, ils ne la finissent jamais, ils abandonnent, ils recommencent ailleurs. Et ils pensent être conduits par l'Esprit. Et ils disent, je suis conduit par l'Esprit. Mais le problème, c'est qu'en réalité, ils fuient le travail que Dieu voudrait faire dans leur caractère. Dieu veut faire un travail dans ton caractère. Dieu ne te mettra pas toujours dans les conditions idéales. Il ne te mettra pas toujours dans un coton. Il va te mettre avec des frères et des sœurs qui vont te gêner, des frères et des sœurs qui vont te déranger, parce qu'il veut travailler ton caractère, parce que tu as besoin de travailler cela. Donc, frères et sœurs, il est important, cette communion fraternelle, il est important de la vivre. Il est important de l'expérimenter. Amen. Et si c'est difficile, tu pries. Et maintenant, la main du ciel va encore venir sur toi. C'est le moment où la main du ciel vient encore sur toi. Tu es dans la gibecière. David te touche encore. Et là, l'onction grandit. Et tu sens une plus grande dimension de puissance. À ce moment-là, tu sens que l'autorité augmente. Tu constates que des choses qui n'arrivaient jamais auparavant commencent à arriver. Tu constates que des choses qui n'étaient pas possibles avant commencent à être possibles. Et je prie que cela t'arrive aujourd'hui. Je prie que cela t'arrive aujourd'hui. Je prie que cela vous arrive à tous aujourd'hui. Je prie que Dieu augmente la mesure. Je prie que Dieu augmente la dimension. Je prie que Dieu te touche encore. Je prie que la main de David vienne te toucher. Je prie que la main de Jésus-Christ vienne te toucher. Alléluia! Parce que nous avons plus que David ici. Amen. Nous avons Jésus-Christ. Ici, c'est la main de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la main de David vient. Elle vient dans la gibecière. Elle va venir prendre une pierre. Et lorsque tu ressens cette nouvelle dimension, tu te dis, ça y est. Ah, je suis choisi dans la gibecière, donc là, c'est mon tour. Il va me jeter sur Goliath. Mais c'est encore un danger, parce que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a encore un peu de temps. Mais je dis que c'est un danger, parce que souvent, cela peut amener la rébellion. Tu enseignes la parole avec puissance, mais on te dit, va prêcher aux enfants. Toi, tu sais que tu as reçu une onction, et tu compares cette onction que tu as reçue avec la tâche qu'on te donne à faire dans l'église. Et tu te dis, mais je suis sous-utilisé, je vaux mieux que ça. Donc la pierre sent à nouveau la main de David sur elle, et elle se dit, ça y est, c'est mon tour. Mais où va-t-elle maintenant? Après la gibecière, où va la pierre? Elle va dans la fronde. Amen. Elle quitte la gibecière et avant d'aller sur le front de Goliath, elle va où? Elle va dans la fronde. Amen. C'est-à-dire qu'elle quitte un endroit caché pour aller dans un autre endroit caché. Amen. Donc la gibecière est une étape qui prépare à la fronde. Dans le torrent, il y a beaucoup de pierres. Il y a une multitude de pierres. Dans la gibecière, il y a 5 pierres. Dans la fronde, tu es tout seul. Amen. Donc la gibecière prépare à la fronde. La gibecière, c'est quand Dieu commence à t'enseigner par la solitude. C'est quand Dieu te dit, viens par là. Viens avec moi. C'est quand il commence à t'attirer dans des retraites personnelles. Quand il commence à te parler à toi seul. Quand il commence à te dire, à te révéler des choses qu'il n'a pas révélées à quelqu'un d'autre. Quand il te donne des convictions qu'il n'a pas données à quelqu'un d'autre. C'est quand il commence à se révéler à toi de manière particulière. C'est quand Dieu réclame ton intimité. C'est quand Dieu réclame ton amitié. Amen. Lorsque Jésus a commencé son ministère, la première chose qu'il a faite, il est allé dans le désert. Il était seul dans le désert. Il était dans la fronde. Il était dans sa fronde. Quand Jacob a voulu rencontrer Dieu, il a fait passer sa famille, il a fait passer ses serviteurs, il a fait passer ses troupeaux. Et alors il est resté seul à seul avec Dieu. Et là, Dieu a changé son nom. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de solitude. Bien-aimé, tu as besoin de solitude et Dieu te demande de le rechercher, seul à seul, car tu es trop accompagné. Tu es trop accompagné. Il y a trop de monde autour de toi, trop d'amis autour de toi. Dieu va te séparer de certaines personnes parce qu'il veut se retrouver avec toi seul, afin de te garder pour lui. Dieu veut t'enseigner lui seul. Il veut t'amener au niveau de la fronde, mais au niveau de la fronde, tu ne peux qu'être seul. Il n'y a pas deux pierres dans la fronde, il y a une seule pierre. Tu ne peux pas grandir sans connaître certaines saisons de solitude. Lorsque nous étions enfants, nous cherchions la compagnie des autres. On cherchait la compagnie des autres, on cherchait les amis, on avait besoin d'amis pour jouer, etc. Mais lorsqu'on grandit et lorsqu'on devient mature, alors on découvre la valeur de la réflexion, on découvre la valeur de la méditation, on découvre la valeur de l'isolement volontaire. Et cette maturité se révèle aussi dans la richesse que l'on trouve dans la solitude. Il y a une richesse que l'on retrouve dans la solitude. Quand je dis la solitude, ce n'est pas tout à fait une solitude. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas dans la solitude. Humainement parlant, tu es seul, mais tu es dans la présence de Dieu. Et alors, tu dois entrer dans la fronde. Je me souviens que beaucoup de choses ont changé dans ma vie à partir du moment où j'ai recherché la présence de Dieu, la méditation de sa parole, sa présence à lui seul, à partir du moment où j'ai commencé à prendre du temps seul à seul avec lui, des temps de consécration, des temps de solitude. Donc la fronde. Je suis seul dans la fronde. Tu es seul dans la fronde. Et là, tu te dis, ça y est, il va me lancer. Mais non, il ne te lance pas encore. Parce que le lance-pierre qu'avait David, avant de lancer, il fallait tourner. Boum, boum, boum. La pierre est dans la fronde et ça commence à tourner. Toi, tu pensais qu'en étant dans la fronde, tu allais être tout seul, tranquille. Mais là, ça tourne. Et quand ça tourne, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu as des nausées, tu as des vertiges, tu as tout ça. Et tu te dis, mais je suis attaqué par le diable. Le diable m'en veut, le diable m'attaque. Mais non, ça ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu lui-même. Pourquoi ? Dieu te met dans la fronde pour que tu commences à te poser les bonnes questions. Quel est mon appel ? Quel est mon ministère ? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé ? Qu'est-ce que je fais là ? Quelle est ma destinée ? Et dans la fronde, tu te poses ces questions. Et tu demandes à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me donnes ces vertiges, cette nausée, ce mal à la tête ? Pourquoi tu me fais ça ? Et là, Dieu te répond. Et Dieu te dit, mon enfant, je ne te donne pas de vertiges, je ne te donne pas de nausées, je ne te veux pas de mal. Mais pendant que la fronde tourne, je prépare. Je te prépare. Et je te prépare, et je calcule, parce qu'à un moment donné, la pierre va être lancée. Amen. La pierre va partir. Mais avant que la pierre parte, Dieu prépare. Avant que la pierre parte, Dieu calcule, Dieu prévoit, Dieu anticipe, Dieu crée des circonstances. Amen. Toi, tu crois que Dieu t'a abandonné, tu crois qu'il t'a rejeté, tu crois qu'il t'a oublié, tu crois qu'il ne t'aime plus. Mais pendant ce temps-là, oui, effectivement, c'est difficile à vivre, sache que Dieu prépare, sache que Dieu anticipe. Et sachez aussi que le diable n'a aucun pouvoir sur la vie de celui ou de celle qui demeure dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir dans la vie de celui ou de celle qui demeure dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Il ne peut rien contre toi. Tout ce qui t'est arrivé ou tout ce qui t'arrive ou tout ce qui t'arrivera est utilisé par Dieu pour ton bien. Pour ton bien. La Bible nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains 8, 28. Toutes choses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu calcule-t-il ? Pourquoi Dieu prépare-t-il le lancer ? Parce qu'une fois que la pierre est partie, c'est fini. On ne rattrape plus la pierre. On ne change plus la trajectoire. Si la pierre n'est pas convenable, si elle n'est pas assez polie, c'est trop tard, tu ne rattrapes pas la pierre pour la changer. Si la trajectoire est un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, c'est fini. Tu ne rattrapes plus la trajectoire. Donc il faut bien calculer. Et Dieu calcule très bien. Amen. C'est maintenant, mes frères et mes sœurs, alors que nous sommes toujours dans la fronde, qu'il faut apprendre, qu'il faut travailler la parole de Dieu. C'est maintenant qu'il faut comprendre cette parole. C'est maintenant qu'il faut recevoir la révélation. Ne laisse pas les nausées, ne laisse pas le mal de tête, ne laisse pas les vertiges te faire sortir de cette fronde. C'est maintenant, il faut rester, tu dois rester dans la fronde. Tu as été dans le torrent, tu as reçu l'onction, tu as été dans la gibecière, tu as été choisi, tu es dans la fronde, tu dois rester dans cette fronde. Écoutez bien, ce n'est pas lorsque nous sommes dans les hauteurs, ce n'est pas lorsque la pierre est dans les hauteurs que Dieu nous forme pour les hauteurs. C'est trop tard. La formation de la pierre, elle a eu lieu dans le torrent. C'est dans le torrent qu'elle a été polie. C'est dans le torrent qu'elle a reçu les affermissements. C'est dans le torrent qu'elle a reçu la parole. C'est dans le torrent qu'elle a appris l'humilité. C'est dans le torrent qu'elle a appris l'obéissance. Une fois qu'elle est lancée, c'est trop tard. La formation, elle est dans le torrent. C'est dans le torrent que Dieu te forme pour quand tu seras dans les airs. Une fois que tu es dans les airs, c'est fini. On ne te rattrape plus. La pierre reçoit sa forme polie dans l'eau. Et une fois qu'elle est dans les airs, c'est terminé. Elle ne reçoit plus sa forme polie une fois qu'elle est dans les airs. Et lorsque la pierre est dans les airs, elle comprend et elle se souvient, et elle se rappelle, et elle se dit, c'est vrai, c'est quand j'étais dans le torrent que j'ai reçu tout ce qu'il me faut aujourd'hui pour faire une bonne trajectoire dans les airs, pour accomplir ma mission alors que je suis dans les airs. Et elle dit merci pour les enseignements. Merci pour les enseignements sur le pardon. Merci pour les enseignements sur la prière. Merci pour les enseignements sur l'humilité. Merci pour les enseignements sur l'amour. Merci pour le brisement. Mes frères et mes sœurs, ce souvenir, c'est bon pour l'humilité. Ce souvenir, ça entretient l'humilité. Ce souvenir, ce qu'on a appris, ce que Dieu nous a enseigné, ce souvenir du parcours qui a été le nôtre, ce souvenir de la main qui a été sur nous durant toute notre vie, ça, c'est une chose qui nous fait du bien et qui entretient notre humilité. Et lorsque la pierre sort enfin, là, elle découvre un nouveau monde. Elle rencontre l'air. C'est quand ton appel et ton ministère apparaissent clairement aux yeux de tous. La tête de Goliath, c'était l'objectif de la pierre. Voilà quel était l'objectif de la pierre. Pour l'atteindre, il faut traverser les airs et il ne faut pas dévier de la trajectoire. Si tu dévies, c'est fini, c'est terminé. Voilà pourquoi Dieu travaille si profondément nos caractères. Parce qu'un jour, alors que tu seras dans les airs, tu vas découvrir un univers nouveau où tu vas rencontrer d'autres difficultés, d'autres puissances spirituelles, où tu vas rencontrer des dominations. Et si le diable, à ce moment-là, trouve encore un petit quelque chose en toi qui ne va pas, alors que tu es dans les airs, alors il va l'exploiter à fond. Et c'est là que tu risques de dévier, d'atteindre ta cible. C'est pourquoi Dieu te dit, ne sois pas cupide, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas impur, ne sois pas menteur. Et tu dois écouter toutes ces choses-là. Écouter l'enseignement, accepter la correction qui vient de Dieu. Laisser Dieu nous faire mûrir. Parce que quand nous sommes lancés, c'est trop tard. Et quand tu es lancé dans ce nouveau monde, tu découvres des situations que tu n'avais jamais connues. Tu découvres des sollicitations, des tentations, des propositions que tu n'avais jamais rencontrées auparavant. Et si ton caractère n'est pas formé, alors tu tomberas. À ce moment-là, si ton cœur n'est pas prêt, tu tomberas. Parce que l'air révèle ce que le torrent a formé. Amen. Et une pierre qui a une mauvaise forme empêche d'avoir une trajectoire stable. Voilà pourquoi il faut une pierre polie, aérodynamique. Elle fend l'air. Et la pierre qui n'a pas cette forme-là, elle a une trajectoire qui est instable et elle risque de ne jamais entrer dans le front de Goliath. La pierre doit avoir une bonne forme pour entrer dans le front de Goliath. Est-ce que tu as cette forme-là? Est-ce que toi, tu as la forme qu'il faut pour entrer dans le front de ton Goliath? Est-ce que tu as le caractère, la maturité nécessaire pour accomplir cet objectif-là dans ta vie? Est-ce que tu es suffisamment poli pour atteindre la cible? Parce que si tu es encore une pierre brute, tu n'entreras pas dans le front. Tu n'entreras pas dans ce front. La pierre polie, c'est la ressemblance avec Jésus. Amen. C'est la pierre angulaire. Voilà ce qu'est la pierre polie. C'est cela qui permet de vaincre le diable. Et nous, quand nous voyons la pierre qui atteint Goliath, nous disons, elle a atteint son but, elle a accompli sa mission, elle a accompli sa destinée. Mais regardez bien, quand elle atteint le front de Goliath, où va la pierre? Elle va dans le front, elle disparaît. À partir du moment où la pierre atteint le front de Goliath, on n'en entend plus parler. Elle disparaît. Et lorsque Goliath tombe, la pierre n'est plus là. Amen. Car la pierre doit disparaître, afin qu'on ne regarde plus la pierre, mais qu'on regarde David, afin qu'on ne dise pas quelle pierre extraordinaire, mais qu'on dise quel David extraordinaire. Amen. Et de la même façon, lorsque tu atteindras ta destinée, toi aussi, et que tu atteindras ton héritage, toi aussi, ne dis pas c'est mon intelligence, ne dis pas c'est mon mérite, mais dis c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui l'a fait. C'est pourquoi la Bible nous donne des exemples comme Paul et Barnabas, qui ont déchiré leurs vêtements quand des hommes leur ont dit, ont voulu leur attribuer la gloire de Dieu, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. La Bible nous donne ces exemples-là. La Bible nous donne l'exemple des séraphins qui cachent leur visage, c'est pour qu'on ne contemple pas leur beauté, mais qu'on contemple seulement la beauté de celui qui est assis sur le trône. Amen. Voilà les exemples que nous donne la Bible. Et donc, lorsque tu atteindras ton but, le but que Dieu a fixé pour toi, ne laisse pas l'orgueil t'envahir, ne laisse pas la victoire t'enivrer. Mais au contraire, sois rempli de l'esprit. Ne laisse pas la victoire t'enivrer, mais sois rempli de l'esprit. Ne laissez pas la victoire, l'héritage, la réussite, les bénédictions, toutes ces choses-là vous enivrer, mais donnez la place à David et donnez la place à Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu posséderas de grandes choses, ne dis pas c'est ma force. Lorsque tu auras réussi, ne dis pas c'est ma force. Lorsque tu auras un ministère qui grandira, ne dis pas c'est ma force. Lorsque tu seras élevé, ne dis pas c'est ma force, mais disparais. Laisse la place à David, laisse la place à Jésus. Deviens un adorateur en esprit et en vérité. Et lorsqu'on te demandera quel est ton secret, réponds, c'est Jésus. Mon secret, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a trouvé, c'est Jésus qui m'a choisi, c'est Jésus qui m'a conduit, c'est Jésus qui m'a élevé, qui m'a conduit jusqu'ici. Amen. Moi, je ne suis pas meilleur que les autres. C'est la grâce qui m'a conduit jusqu'ici. La grâce seule. Nous sommes toutes et tous des enfants de la grâce. Nous sommes toutes et tous des produits de la grâce. Combien de chrétiens pensent qu'ils n'ont ou oublient qu'ils ont été des produits de cette grâce ? Combien ? Et ils finissent par croire qu'ils se sont faits eux-mêmes, qu'ils se sont construits eux-mêmes. Mais sans David, la pierre ne serait jamais arrivée dans le front de Goliath. La pierre serait toujours restée dans le torrent sans David. Amen ? Donc souvenons-nous, je disais tout à l'heure, le souvenir entretient l'humilité. Et pour terminer, j'aimerais parler de relève. Comme je disais tout à l'heure, souvent nous parlons de la victoire de David et c'est tout. David a vaincu Goliath, point barre, on s'arrête là. Mais que se passe-t-il après ? Lorsque Goliath tombe, il se passe quelque chose. David ne récupère pas la pierre. Il va sur le corps de Goliath, il prend l'épée de Goliath, il la tire du fourreau et il coupe la tête du géant. Ce n'est plus la pierre qui coupe la tête, c'est l'épée. Amen. Et l'épée aussi, elle est sortie d'un fourreau. La pierre est sortie de la gibecière, l'épée, elle est sortie du fourreau. Amen. Et cela nous enseigne une chose. C'est ça que je parle de relève. C'est que le Père doit laisser la place au Fils. C'est un principe spirituel, c'est un principe de Dieu. Le Père laisse la place au Fils. La pierre a préparé le terrain pour qu'ensuite l'épée puisse prendre le relais. La pierre a souffert d'une façon et l'épée a souffert d'une autre façon. La pierre est arrivée, elle a trouvé en face d'elle un géant debout. Quand l'épée est arrivée, elle a trouvé un géant au sol, un géant qui était mort. Mais l'épée doit quand même accomplir sa mission. Elle avait quand même une mission. Paul forme Timothée. Timothée forme d'autres hommes fidèles. Les autres hommes fidèles forment d'autres hommes. Et toi aussi, prépare-toi, car quelqu'un, un jour, va entrer dans ton héritage. Un jour, quelqu'un va entrer dans ton héritage. Peut-être qu'il ne souffrira pas comme toi, tu as souffert, mais il va rentrer dans ton héritage. Ce qui est sûr, c'est que Dieu le forme aussi, de son côté, selon son besoin et selon ce que Dieu a prévu pour lui. La pierre ne n'est pas pierre. L'épée ne n'est pas épée. Elles ont toutes les deux subi une transformation. L'épée, c'est vrai, n'a pas connu le torrent, mais elle a connu la forge. L'épée n'a pas connu l'eau du torrent, mais elle a connu le feu de la forge. L'épée n'a pas connu, comme la pierre, la gibecière, mais elle a connu le fourreau. Elles n'ont pas le même parcours, mais elles ont toutes les deux un parcours, chacun son parcours. Moi, je ne suis pas passé par ton école, mais je suis passé par mon école, celle que Dieu a prévue pour moi. Nous avons chacune et chacun un parcours. Amen. L'épée sort du fourreau pour couper la tête de Goliath. Et alors une nouvelle génération rentre dans la victoire. L'épée, c'est une nouvelle génération, car la pierre a engendré l'épée. L'épée engendre l'armée. L'armée engendre le peuple, et les hommes et les femmes du peuple entrent et participent dans la victoire. Paul, Timothée, les autres fidèles et d'autres fidèles. Quatre générations. Et le problème, c'est quand la pierre qui a été lancée ne veut pas coopérer avec l'épée. Ce sont des choses que l'on voit malheureusement parfois, où la génération ancienne regarde de haut la génération qui arrive. Petit, tu n'as pas souffert comme moi. Petit, j'ai plus d'expérience que toi. J'ai une meilleure relation avec Dieu que toi. J'ai plus d'intimité avec Dieu que toi. J'ai connu de plus grandes épreuves que toi. Alors que la pierre devrait dire à l'épée, c'est vrai, je n'ai pas souffert pour que tu connaisses les mêmes souffrances que moi. Tu auras tes souffrances, mais moi j'ai souffert pour que toi tu ailles plus loin que moi. Voilà ce que la pierre doit dire à l'épée. J'ai souffert pour toi, non pas pour que tu souffres comme moi, mais pour que tu ailles plus loin que moi, plus haut que moi. L'épée, en retour, ne doit jamais effacer la trace qui est sur le front de Goliath. Amen. La trace que la pierre a faite sur le front de Goliath. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'épée qui a tué Goliath, c'est la pierre qui a tué Goliath. La pierre a frappé le front, et l'épée, elle, a achevé la victoire. Amen. Donc, quand nous sommes épée, ne changeons pas la vision. Ne modifions pas, ne renions pas la doctrine que nous avons reçue de nos pères. Amen. L'épée ne doit pas oublier la pierre. Et la pierre ne doit pas empêcher, en retour, l'épée d'agir. La pierre ne coupe pas la tête de Goliath. L'épée ne frappe pas le front. Chacun sa mission, chacune sa mission. Dieu a prévu les deux. Et ça, ce sont des maladies que nous rencontrons souvent. Et quand une nouvelle génération arrive, il y a des anciens qui disent « Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas dignes, nous faisons mieux que vous et nous allons continuer de faire comme nous avons l'habitude de faire depuis longtemps. » Mais la pierre ne coupe pas la tête de Goliath, c'est l'épée qui coupe la tête. Amen. Il faut une épée. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que c'est un honneur d'engendrer des hommes et des femmes puissants, une nouvelle génération puissante. Dieu nous honore quand nous voyons de nos yeux nos enfants spirituels aller plus loin que nous. Dieu nous honore quand nous voyons ces choses-là. Dieu nous honore quand nous voyons une nouvelle génération bénéficier des sacrifices que nous avons faits. Amen. C'est une grâce. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Quand on regarde nos enfants, on est content quand nos enfants grandissent, on est content quand nos enfants sont en bonne santé, quand ils font des bonnes études, quand ils réussissent, qu'ils ont des meilleures situations que nous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau affectif. On veut tout cela pour nos enfants. Amen ? C'est tout ce que l'on veut. Pourquoi ce n'est pas vrai au niveau spirituel ? Pourquoi ça serait différent au niveau spirituel ? Moi aussi, au niveau spirituel, je veux que mes enfants aillent plus loin que moi. Moi aussi, je veux qu'au niveau spirituel, mes enfants connaissent mieux Dieu que moi. Amen ? Un père souffre toujours pour que ses enfants aillent plus loin, que ses enfants fassent mieux que lui. C'est la maturité, mes frères et mes sœurs. C'est permettre aux autres d'entrer dans ton héritage. La maturité, c'est ça, c'est partager le fruit de tes combats avec ceux qui viennent après toi, avec cette nouvelle génération. Abraham pensait que Dieu allait lui donner Isaac et qu'il lui parlait d'Isaac seulement. Mais pendant que Dieu parlait d'Isaac, Dieu pensait déjà à Jésus-Christ. Amen. Abraham croyait que Dieu lui parlait de sa propre histoire, mais en même temps, Dieu préparait l'histoire du monde. C'était beaucoup plus grand qu'Abraham. Alors prépare-toi, parce qu'il y a des héritiers qui vont entrer dans ton héritage et ils profiteront de ton héritage. Amen. Celui qui n'a pas cette pensée, il a une pensée égoïste. Il prie pour lui, il vient devant Dieu pour lui, il demande pour lui, il reçoit une bénédiction pour lui et une fois qu'il l'a reçue, il pense que tout est accompli. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous bénéficions de la grâce de Dieu, c'est parce qu'un jour Jésus est mort à la croix. Nous sommes nous-mêmes des bénéficiaires de la foi de Jésus. Ni vous ni moi n'étions présents à Golgotha. Ni vous ni moi ne sommes montés sur le bois. Personne ici n'a été battu, personne ici n'a été humilié, personne ici n'a été insulté, personne ici n'a eu une couronne d'épines sur sa tête, personne n'a eu de clous plantés dans ses mains, dans ses pieds. Personne. C'est Jésus qui l'a fait. Nous, nous disons que nous avons vaincu le diable à la croix, nous le disons, et c'est vrai, mais nous l'avons fait par procuration. Nous l'avons fait parce que Jésus l'a fait pour nous. Nous l'avons fait parce que Jésus nous a donné cet héritage. Nous l'avons fait par procuration. Nous ne le méritons pas. Aujourd'hui, nous chassons les démons, nous prions au nom de Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Mais qui a les marques de la croix sur son corps ? Qui a les marques de la croix sur son corps ? C'est Jésus. C'est Jésus seul. Alléluia. Et s'il a accepté de souffrir pour nous, si Jésus lui-même a accepté de souffrir pour nous, pour que nous bénéficions de son œuvre, alors pourquoi nous-mêmes nous refuserions de souffrir pour que nos enfants, eux aussi, viennent après nous ? Pourquoi ? Et Dieu m'a montré en préparant ce message qu'en fait, le plus grand niveau de maturité spirituelle, c'est l'amour. C'est l'amour. Le plus grand niveau de maturité spirituelle, c'est l'amour. C'est quand tu acceptes de payer le prix pour les générations futures, sans condition. C'est quand tu acceptes de payer ce prix-là, alors que ce n'est pas toi qui vas profiter de ce que tu as semé. Le plus haut niveau de maturité, c'est quand tu acceptes que les autres aillent plus loin que toi, quand tu acceptes que les autres rentrent et profitent de ton héritage. Lorsque Dieu te bénit, il t'accorde un héritage, mais il te donne aussi une grande responsabilité, c'est de préparer la génération suivante, de donner aux générations suivantes. Frères, sœurs, la véritable maturité, c'est de comprendre que ce que Dieu nous donne aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Et ce matin, nous voulons, oui, nous placer devant toi comme ces pierres. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, et tout abandonner entre tes mains. Oui, nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons rester dans ce torrent où ta grâce coule, où ta parole abonde, Seigneur. Merci de nous remplir encore de cette parole. Merci de nous conduire par cette parole dans ce torrent, Seigneur. Merci de nous renouveler, de nous transformer par cette parole. Merci d'agir puissamment dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas rester des pierres rugueuses, Seigneur, mais nous voulons devenir ces pierres polies par ta parole, Seigneur. Nous voulons devenir ces pierres éprouvées par ta parole, Seigneur, afin que tu puisses nous choisir, que ta main vienne sur nous, que ta main nous choisisse, que nous puissions entrer dans cette gibecière avec nos frères et nos sœurs, Seigneur, que nous vivions cette expérience de la communion fraternelle, Seigneur. Travaillons ensemble pour toi, Seigneur. Il n'y a rien de plus beau. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Que ta main soit sur ton Église, Seigneur. Bénis cette assemblée de Toulouse-Ouest, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur. Répands ton amour parmi nous, Seigneur. Transforme-nous par cet amour, Seigneur. Et quand tu nous choisiras pour aller dans la fronde, Seigneur, oh, que nous puissions être obéissants, que nous puissions être dociles, que nous puissions nous laisser encore conduire par toi, sans rébellion, Seigneur, pour atteindre l'objectif que tu nous as donné, l'objectif que tu nous as fixé, non pas pour bénéficier nous-mêmes de ces bénédictions, Seigneur, mais pour qu'elles viennent en grâce, pour qu'elle vienne au bénéfice des générations qui arrivent. Oh Seigneur, merci de préparer la génération qui vient, Seigneur. Bénis la jeunesse, bénis les enfants, Seigneur. Bénis-les de ta présence, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit sur eux. Bénis-les abondamment, Seigneur. Conduis-les d'ores et déjà dans le chemin que tu as prévu pour eux. Aplanis le sentier, Seigneur. Bénis-les de ton amour. Bénis-les de ta présence. Merci Jésus pour ton Église qui est merveilleuse, Seigneur. Merci pour ta parole qui fait tellement de bien à nos vies, qui nous transforme et nous renouvelle chaque jour. Que ton nom soit béni. Amen.